Depuis toujours, l'armement, c'est un objet éminemment politique et géopolitique.
C'est ça. La façon qu'une société aura de faire la guerre, ça va avoir une influence assez radicale sur comment cette société se construit, comment cette société se perçoit et comment cette société s'organise, non seulement dans son aspect purement militaire, mais aussi dans son aspect économique et social en lui-même.
Vous revenez par exemple sur quelques éléments fondateurs, par exemple l'acier.
Les sociétés de l'âge du bronze, donc avant l'âge du fer, s'étaient organisées de manière assez fine autour notamment du commerce de l'étain qui permet de faire du bronze, qui est un métal assez rare. Et toute cette société a été complètement bouleversée par l'avènement de l'âge du fer, qui va complètement bouleverser l'organisation sociale et commerciale de ces sociétés.
Autre bouleversement plus près de nous, les années 60, le microprocesseur.
Alors le microprocesseur est ce qu'on va donc pouvoir qualifier d'électronique moderne, qui va permettre la miniaturisation, l'automatisation et la programmation de tout un ensemble de systèmes de plus en plus poussés. Tous ces éléments-là sont une nouvelle mise à l'épreuve de nos sociétés, de nos modèles militaires, au sens où ils permettent de rebattre relativement facilement les cartes entre un acteur peu doté comme l'Ukraine et un acteur théoriquement très bien doté comme la Russie. Par exemple, grâce à l'électronique avancée, grâce aux drones, l'Ukraine est en mesure de mettre en échec la marine russe, si vous voulez, en mer Noire, avec des moyens qui sont très limités.
Sur le plan mondial, vous notez que l'armement est un outil d'hégémonie des grandes puissances, ça c'est bien connu. Un outil de souveraineté, en revanche, pour les puissances moyennes. On peut penser au TB2 par exemple pour les Turcs.
L'armement, c'est pas seulement l'effet final que vous lui recherchez. L'atout d'une arme à feu, c'est pas seulement de tirer. L'atout d'un drone de combat, c'est pas seulement d'emmener une munition. En fait, toute la partie conception et production est importante dans l'armement parce qu'elle dit des choses sur la stratégie d'une nation. La Turquie est aujourd'hui un acteur montant et de plus en plus important dans le domaine de l'armement parce qu'il y a maintenant plus de 50 ans, pendant les années 70, les décideurs turcs ont décidé de revenir sur leur dépendance vis-à-vis des Américains et de construire une base industrielle et technologique de défense puissante, autonome. Par exemple, aujourd'hui, la Turquie est en mesure de proposer à ses partenaires de l'armement relativement moderne, relativement performant, à un coût limité, tout en l'intégrant dans une offre diplomatique plus large. C'est le cas en Afrique, où l'armement turc a de plus en plus de succès, parce qu'il répond plutôt bien aux problématiques locales, tout en s'accompagnant d'une diplomatie turque qui est basée sur la formation des élites, sur la religion, et sur un discours d'alternative aux puissances traditionnelles.
Quel est l'état de la BITD française, ses forces et ses faiblesses?
En 2023, la France était le deuxième exportateur d'armement au monde. Maintenant, l'exportation d'armement français est complètement dopée par les ventes du Rafale et de quelques systèmes très pointus et extrêmement chers, ce qui lui donne aujourd'hui cette place. Maintenant, il y a aussi un vrai déséquilibre au sens où, dans toute la vente d'armement français, la part de l'armement terrestre est très limitée. Ce qui est une fragilité, par exemple, dans la façon dont la France voudrait aider l'Ukraine, puisque la France est un fournisseur relativement mineur de munitions d'artillerie face à d'autres acteurs, notamment les Américains, mais aussi face aux Allemands, qui, dans leur effort industriel, sont beaucoup plus efficaces parce que leur BITD industriel terrestre, qui est le point fort de l'Allemagne, est bien plus structuré et bien plus important.
La technologie, c'est une chose, la capacité à produire en masse en est une autre, et on dit long sur la puissance d'une nation.
Tout à fait, même si je pense qu'à l'heure actuelle, 2 ans après le début de la guerre en Ukraine, il ne faut pas non plus idéaliser la masse. C'est important. Les Ukrainiens parviennent à tenir la ligne grâce à des livraisons d'armement européens qui sont quand même très efficaces dans leur genre et qui leur permettent en quelques tirs de faire ce que les Russes vont faire avec beaucoup plus de munitions parce que leurs armements sont moins précis, parce qu'ils portent moins loin, parce qu'ils sont moins mobiles.
On évoquait les ruptures technologiques. Évidemment, on pense à l'intelligence artificielle. Comment ça va venir bouleverser des matériels plus anciens, je pense à l'artillerie?
Un des grands enseignements pour le moment de la guerre en Ukraine, c'est que 80 à 90% des morts et des blessés en Ukraine sont le fait de l'artillerie. L'artillerie très classique, le même principe qu'on utilise depuis le 15e siècle. Et ça, de ce qu'on en voit, c'est pas prêt de changer. Parce que les drones en soi sont intéressants, mais les drones d'attaque ont des limitations particulières. Vous pouvez pas, sur une même bande passante, déployer 1000 drones qui soient tous guidés dans un rayon d'un kilomètre, guidés par une seule personne. Pour le moment, c'est pas possible. Avec l'IA, ça va devenir possible. Parce qu'en utilisant une seule fréquence, vous pourrez contrôler plusieurs drones qui seront connectés entre eux. Les drones vont obliger les armées à s'adapter, soit en se durcissant, soit en étant plus mobile, soit en se cachant. Il va falloir réinventer notre façon d'appréhender le champ de bataille pour la haute intensité et pas forcément chercher à réinventer systématiquement la poudre, mais au moins adapter correctement ce qui existe pour atteindre nos objectifs sans exploser nos taux de perte.